Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous sommes le dimanche 27 octobre et nous recevons notre motarde en or, Papate. Bonjour Papate, comment tu vas bien ?
Bonjour, toujours aussi heureuse de participer à l'émission, donc c'est parfait.
Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des femmes, des femmes motardes, des héroïnes d'exception, qu'elles soient réelles ou imaginaires.
Oui, elles sont associées en quelque sorte dans le sommaire de cette émission parce qu'il y a une espèce de pont, je dirais, entre des femmes qui ont une réelle et l'autre imaginaire, existé pleinement par la moto dans les années 70 et qui sont revenues à l'actualité. L'une d'elles de manière un petit peu plus récente, mais l'autre, il s'agit donc de l'imaginaire. Son retour est annoncé pour janvier 2025.
Bon, on peut quand même dire de qui on parle.
Ah bah
donc
oui,
la réelle, c'est Anne-France Dotteville, qu'on connaît bien, que nos auditeurs doivent bien connaître, puisque tu l'as déjà interviewé pas mal de fois. Mais là, en l'occurrence, si on va la voir d'ailleurs à la fin de l'émission, au téléphone, parce qu'elle a ressorti un livre au mois de mars pour ses 80 ans, c'est ça ?
Disons que l'année 2024, oui, remet encore plus à l'actualité Anne-France, parce qu'effectivement, c'est l'année de la sortie de son dernier livre en date, « Roule ma poule ». Et jusqu'ici, nous n'avions pas eu l'occasion, effectivement, d'en parler avec elle. On s'est dit, on ne va pas laisser finir l'année sans le faire. Et puis, elle intéresse toujours autant, j'irais, tous les médias. Je vous parlerai d'un super article en septembre, d'un podcast à écouter, d'une émission en octobre. Donc, et là, Julie Wood, oui, c'est aussi pleinement l'actualité.
Alors, Julie Wood, c'est le personnage fictif, donc imaginaire, de Jean Graton, le dessinateur, et qu'il a imaginé dans les années 70, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes à moto.
Tout à fait. Et moi, je me suis toujours posé la question
pourquoi.
Voilà, parce que ça me semblait...
Un fantasme, tu crois, du dessinateur?
Non, je pense que c'était beaucoup plus sage que ça. Je vous donnerai un petit peu l'explication.
Ok. Parce qu'en fait, il est en train de faire une saison 2, c'est ça? C'est pour ça qu'on en parle.
Voilà. Alors bon, ça, c'est vrai qu'il y a eu un peu la suspicion du commercial. Et l'équipe en charge de cette saison 2 explique aussi qu'il y a vraiment cette idée de retrouver une héroïne, hein, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec aussi la collection, toute la collection Michel Vaillant. Il y a une nouvelle saison aussi.
Le pendant pour la voiture.
Voilà. Donc pour Julie Wood, comme il n'y a pas non plus trop de BD moto et que les femmes sont quand même...
rarement représentées.
Disons qu'actuellement un peu plus, ouais. Mais le personnage tel qu'il va évoluer dans cette saison 2.
Dis pas tout.
Oui, parlera aux générations actuelles.
Ça marche. Alors, t'es pas venu tout seul, t'es venu avec notre ami motard lecteur. Bonjour Yves.
Bonjour.
Et toi, tu vas nous parler donc du dernier livre d'Elisabeth Caracciolo.
Oui, exactement. Le dernier livre, il est sorti en 2019, mais c'est du sable plein les poches. Et puis, raconte un petit peu des tas d'anecdotes et on voit à peu près... l'envers du décor, on part dans l'intime des participants et des organisateurs des rallye raids des années 91 jusqu'à maintenant, quoi. Et Elisabetta Caracciolo, c'est une journaliste italienne freelance qui a suivi, donc elle doit en être à peu près à son 30e Dakar, quoi. Et elle a fait aussi du 4x4, donc ça parle un peu moto, camion, voiture. Et la préface est de René Medge, avec qui elle a travaillé notamment pour l'organisation des rallyes. Paris-Pékin, quoi, Moscou-Pékin.
Dis pas tout, les uns un petit peu pour tout à l'heure. mais tu ne fais pas que te nourrir de littérature.
Non.
Tu manges et tu bois comme tout le monde, comme nous. Et tu es allé faire un tour sur Boulogne-sur-Mer avec un nouveau concept.
Alors, j'ai Je n'ai pas encore été voir. Je n'ai pas encore été goûté. Non, mais bon, c'est les copains du LVM qui m'ont fait passer l'info. Et à savoir, on pouvait faire une pause. Donc, on aime bien rouler. Et il faut aussi un petit but à chaque fois pour les virer. Et puis, il faut savoir se poser aussi quelque part. Et si on peut se poser et avoir à manger et en même temps tomber dans une ambiance motarde, c'est encore mieux. Donc, il y a un nouveau lieu qui s'est ouvert donc, à Boulogne-sur-Mer qui s'appelle le 883. Et donc on avait interviewé donc Jean-Pierre Morichon qui gère l'endroit et qui est aussi motard quoi.
Donc on l'aura tout à l'heure au téléphone. Il nous présentera son établissement. Ok. Je termine le tour de table en présentant à la technique et à la programmation musicale notre ami Laurent. Vous êtes bien sur Radio Campus Kick un coup, le magazine de la moto tous les dimanches. Et nous retrouvons donc Papat qui va nous parler d'une héroïne devenue iconique, une motarde, la première motarde qui a fait un tour du monde à moto et qui ensuite a écrit des livres. C'était Anne-France d'Hauteville, c'est ça ?
Oui, déjà un petit voyage aussi, en quelque sorte dans le temps, parce que c'est vrai que Anne-France a fait énormément de choses, mais sur une durée qui, à l'heure actuelle, effectivement, s'avère conséquente. Et ça, on ne peut que s'en réjouir. Anne-France est née en 1944. Elle avait 24 ans en 68. Au travers de ses livres, elle raconte comment elle est venue à la moto. Elle le raconte avec son style à elle, très vivant. Et
pourquoi en 68 ? Parce qu'à cause des grèves,
voilà.
Elle a dû s'acheter un deux roues motorisé. Et c'est comme ça qu'elle a découvert la joie du deux roues et la liberté du deux roues.
Voilà, avec son petit 50 cm3, effectivement, elle a pu se déplacer comme elle le souhaitait. Et au fur et à mesure, elle a évolué, je dirais, dans ses choix de machines. Elle a aussi rencontré des gens dans le monde motard. Et effectivement, elle est arrivée avec l'idée de pouvoir participer à un rallye qui était à l'époque très célèbre pour sa difficulté aussi. Et auquel normalement les femmes ne participaient pas, sauf comme passagères. C'est le fameux Orion. Et
qui allait de Paris à Ispahan, c'est ça ?
Voilà.
En Iran.
Voilà. Donc elle a raconté, à chaque fois elle a partagé, elle a commencé comme ça. Elle a plusieurs passions, dont l'écriture. C'est quelque chose qu'elle revendique, je dirais même avant d'être motarde. Et donc elle a pu faire donc des livres à chaque fois, la première demoiselle à moto. Et ensuite elle est revenue et elle est donc. À la lire, vous allez retrouver tout ça, hein, bien sûr, avec les détails. Mais elle a ensuite enchaîné avec un autre voyage où elle a fait ce grand périple, ce tour du monde qu'elle raconte. J'ai suivi le vent.
Ah oui, alors là, c'est parce que, si mes infos sont bonnes, c'est parce que quand elle est revenue de son premier périple, en quelque sorte, c'est avec le Raid d'Orion, il y a des gens qui auraient dit, des rumeurs qui disaient qu'elle aurait été lesbienne, nymphomane, qu'elle aurait terminé le raid en camion, qu'en fait, que c'était pas vrai. Quoi.
Disons qu'il y avait déjà une suspicion sur sa capacité à avoir pu rouler
aussi loin
et prolonger son périple.
Ouais, parce qu'après, elle est allée beaucoup plus loin.
Voilà, c'est ça.
Que le raid, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et à la fin, ils sont finis, ils étaient 4 ou 5 seulement, quoi. Ouais.
Donc, elle a écrit, il y a plusieurs ouvrages, hein, donc J'ai suivi le vent, elle va aussi aller en Australie, hein, l'Australie est en bas à droite, donc...
Son premier tour du monde en 73, elle a quand même fait le Canada, l'Alaska, le Japon, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Autriche, l'Allemagne et
très
la France, quand même, quoi.
Très impressionnant. En solo, voilà, parce que...
Sur une 100 cm cube, incroyable.
Après, elle a évolué.
Après, elle a pris du BM, ouais. Elle avait besoin de confort.
Là, c'était Kawasaki.
C'était une Kawasaki 100 cm. Ouais.
Et donc, c'est ce qu'elle raconte. C'est qu'après son premier périple, elle s'est dit que c'était pas son truc de rouler en groupe. Et voilà, elle a été la première comme ça.
C'était aussi une manière de montrer qu'elle était encore plus forte que les hommes parce qu'elle pouvait rouler seule.
C'est pas la motivation qu'elle met en avant.
Non, c'est la liberté.
C'est le choix de la liberté et d'aller selon le
vent l'emportera.
Moi j'ai essayé à l'époque de retrouver ces livres. Ils n'étaient plus disponibles. Ouais. Et donc j'ai été très contente quand l'actualité en 2016 la remise assez particulière
au goût du jour,
en pleine lumière, voilà, parce que à ce moment-là effectivement il y a eu un gros truc médiatique, hein, parce que on a beaucoup parlé d'elle. Donc en 2016,
pourquoi on a parlé d'elle en 2016?
Voilà, parce que la styliste d'une grande marque.
Tu peux la dire, hein, la loi.
Voilà, Chloé. En l'occurrence, je vais peut-être écorcher son nom, mais Clara White Keller, s'est inspirée de ce tour du monde à moto, mais aussi surtout des photos qu'elle voyait de Anne France, qui est très belle.
Ouais, parce qu'elle cherchait des photos de notamment de motocross, enfin de moto, quoi, et elle ne voyait que des hommes, et puis quand elle a vu elle a dit mais c'est ça là qu'il me faut.
Elle qui a toujours elle insiste bien aussi dans ses écrits sur justement ce plaisir à être féminine.
Tout à fait. Ouais.
Et donc
c'est elle qui a inventé la mode motarde féminine, quoi.
Oui, et puis une mode que l'on trouve. Je pense que c'est pour ça aussi que ça contribue au succès qu'elle peut avoir auprès des motardes. Ça paraît complètement accessoire, mais la mode des années 70, on la retrouve dans ce qui existe actuellement.
Le vintage étant à la mode, oui. C'est très à la mode aujourd'hui, c'est ça.
C'est ça. Et puis une femme effectivement qui peut parcourir des milliers de kilomètres tout en gardant sa féminité.
Ouais.
Voilà. Et donc Cette période de 2016 a été très favorable à Anne France, dans la mesure où il y a eu une réédition aussi, en premier, de J'ai suivi le vent, dans la petite bibliothèque Payot. Et donc, depuis, il y a d'autres livres qui sont parus. Le dernier en date dans cette collection, c'est la Piste de l'or.
Ça, c'est quand elle était en Amérique latine, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et donc, par contre, le dernier, c'est l'édition libraire, encore pour Roule ma poule. Il faudra attendre un petit moment avant que ça soit disponible en poche.
Alors, j'ai vu sur la pochette qu'elle est bien sûr à moto et qu'il y a des poules qui s'écartent. Il y a un jeu de mots, il y a quelque chose, Ça te dit quelque chose ou pas ?
Disons qu'il y a déjà l'expression hein,
roule ma poule.
Roule ma poule.
Ah. Mais il n'y a pas un symbole parce que je vois deux poules blanches et une poule noire, non ?
Peut-être des chemins parcourus. Il est tout à fait particulier ce livre. Et moi, je trouve très réussi quand on. On est en demande aussi de plus d'écrits d'Anne France. Je crois qu'il faut déjà lire ses autres livres pour aussi. Avoir le plaisir de la retrouver. Et donc, cette réédition de « J'ai suivi le vent », il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup d'intérêt, de temps de partage, dont Anne France n'est pas du tout avare. La preuve aussi de l'interview qu'elle va nous accorder. Et elle a, je pense, un énorme plaisir à partager avec les personnes qui viennent à sa rencontre.
C'est un peu grâce à elle, finalement, qu'on a aujourd'hui autant de motardes ou plus de motardes, c'est un peu grâce à elle.
Je pense que tu as tout à fait raison, Luc, parce qu'on a eu des invités. Moi, la dernière en date, j'ai repris attendez deux secondes que je regarde bien pour ne pas écorcher son nom. Alison Aigrin, qui nous avait accordé une interview pour son livre Talons et Guidons. Et donc, elle consacre plusieurs pages à Anne France pour dire qu'effectivement, c'est une inspiratrice. Mais quand je lis aussi des interviews de motardes, moi, je ne vais pas énumérer, souvent, il y a la référence à Anne France.
C'est normal, elle est devenue iconique.
Oui, voilà. Et effectivement, elle est devenue iconique auprès d'une génération de nouvelles motardes, et c'est pour le bonheur de tous.
Donc on la retrouvera à la fin de l'émission et on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut.
Tout à fait.
Ok, on fait comme ça, à tout à l'heure, merci. So blow. Vous êtes bien sur Radio Campus, qui est qu'un coup, le magazine de la moto tous les dimanches. Et nous sommes avec Papat, qui met en valeur les femmes et la moto, et donc qui nous parle d'héroïnes qui ont existé ou qui ont été imaginaires. Je pense à Julie Wood, c'est ça ?
Tout à fait. Un personnage créé par Jean Graton en 1976 pour un tout nouveau magazine de bande dessinée à l'époque. Et donc, c'était l'histoire d'une jeune américaine. Au départ, ça se passe aux États-Unis, qui avait que 16 ans. Hein, physiquement parlant, elle était déjà bien épanouie.
Je t'avais dit tout à l'heure que c'était un fantasme de mec, ça.
Mais non, parce que justement, moi, je me disais, mais comment il a été... Surtout, c'était une fille sage. C'était une fille qui vivait dans sa famille. Bon, avec une histoire... Elle n'avait plus ses parents. Mais elle avait ses frères, elle avait son oncle. Et puis, elle avait cette volonté hein, de développer ses compétences, je dirais, sur tous les... Au départ, c'était motocross, hein, mais c'était un petit peu... Sa passion pour la moto l'a amené sur d'autres terrains. Et donc, je me disais, mais comment lui est venue cette idée, en 76, de créer une fille déjà aussi émancipée.
Personnage féminin, ouais.
Et puis aussi émancipée.
Ouais, parce qu'il était plutôt habitué à Michel Vaillant, quoi, l'alpha mâle en bagnole.
Disons que ne le connaissant pas, je ne sais pas ce qu'il pouvait penser à l'époque, mais c'est vrai qu'on a toujours des représentations concernant les personnes. On dit, bon, le mec, il est d'une génération des années 20 et quelques, il y a peut-être des a priori sur les femmes. Ben non, déjà là, il a créé un très beau personnage et qui aurait été inspiré par une personne réelle.
Ah ouais.
C'est-à-dire que, disons qu'il a servi de modèle, en tous les cas pour le physique de Julie, mais cette fille qui n'avait aussi elle que 17 ans, c'était une amie de son fils et elle faisait médecine, elle commençait ses études de médecine et non seulement elle avait un super beau physique mais c'est une très belle personne parce qu'elle a eu une carrière professionnelle exemplaire, hein, donc avec des grosses responsabilités, elle a été chef de service pédiatrique à Bruxelles, je veux dire quelqu'un...
Rien à voir avec la moto.
Je sais pas, peut-être qu'elle faisait de la moto, je sais pas du tout. Mais disons que...
En tout cas, il a été bien inspiré parce qu'il lui a consacré 8 albums en 4 ans quand même.
Voilà, moi j'aime à penser que Jean Graton avait été aussi bien suivi par séduit par la personnalité du modèle de Julie, comme il a pu développer son personnage, effectivement, au cours de 8 albums sur 4 ans. Alors à l'époque, parce que il faut rappeler, donc, c'est que Jean Graton, c'était le papa aussi de Michel Vaillant, hein, Michel Vaillant qui a une importance, mais là on était plutôt à 4 roues.
Il a fait combien, 40 albums je crois, c'est
au moins une quarantaine. Plus d'une quarantaine,
hein, prolifique, là,
dans mon souvenir c'est 47. Et donc la production Jean Graton à l'époque elle tournait à plein régime parce qu'en 79 par exemple il y a eu 3 albums de Michel Vaillant qui sont sortis et c'était le travail de toute une équipe. Et donc, après 80, oui, on va dire, c'est ce qui est devenu la saison 1 de Julie Wood, elle s'est arrêtée, même si le personnage continuait à apparaître dans
avec
la suite
Michel
des
Vaillant.
Aventures.
Voilà. Et puis après, il y a eu une saison 2, alors, c'est ça que tu...
Alors là, il va y avoir une saison 2. Hein, disons qu'effectivement, nous, on avait été amené à reparler de Julie Wood dans les années 2015-16, dans mon souvenir, parce qu'il y avait la réédition il y avait la sortie plutôt de l'intégrale. Alors là, c'est une très belle collection aussi, parce que vous avez plus que les BD. Hein, il y a des archives, des choses qui y figurent. Et dernièrement, j'ai lu un très bel article, c'est en Moto Hero, de ce trimestre, sur justement le retour de Julie Wood. Pour annoncer pour janvier. Effectivement, ça avait été déjà cité sur les blogs d'amateurs de BD il y a 2-3 ans, comme quoi c'était en projet. Et là, c'est effectif, c'est le fruit du travail aussi d'une équipe.
Et c'est une nouvelle Julie Wood ?
Alors, grâce à son dessinateur...
Elle n'a pas pris une ride ?
Elle a quasiment le même âge, hein, elle aura 18 ans. Bon, certains dans les commentaires disent eh ben, elle est plus sexy.
Elle est elle a grandi maintenant, c'est une femme.
Non, disons que je pense qu'à l'heure actuelle, et j'ose l'espérer, c'est que justement...
On représente la femme un peu différemment, c'est ça?
Voilà, c'est ça, et qu'on peut assumer le fait d'être... De laisser épanouir sa beauté,
sexy.
Sans que ça soit associé au mot sexe. Mais le sexy, ça ne veut pas dire vraiment sexuel. C'est,
ah ouais, non, pas du tout, au contraire. Ouais, tout à fait.
Mais disons que voilà, c'est d'essayer d'épanouir sa beauté, son charme,
féminité,
sa féminité, ouais. Voilà, sans...
On n'est plus obligé de cacher son corps, quoi, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ouais. Ça. Disons qu'en tous les cas, c'est pas à laisser son corps être, exister. Je veux dire, c'est plus associé à provoquer.
Voilà, ouais.
Ça c'est important. Donc, c'est déjà très très élaboré, hein, la carrière de cette saison 2. Parce que vous pouvez retrouver alors tous les détails dans l'article, mais aussi si vous vous rendez sur le site des éditions Dupuis, puisque c'est cet éditeur-là qui est concerné, vous allez avoir la couve, hein, de cette saison 2, le titre de l'album. Et puis vous aurez aussi la possibilité de... faire une précommande si vous êtes intéressé, parce que il y a un financement participatif. Moi j'ai opté pour le moins cher, hein, mais c'est tout à fait accessible, donc avec une jaquette collector pour la premier numéro. Donc c'est un tirage qui se fera à 15 000 exemplaires. Donc moi j'ai aimé à penser qu'il allait avoir un tel succès que
ça va vite partir.
Il fallait que je réserve. Ouais, que je réserve. Ouais. Donc il y a aussi 3 albums sur 3 ans. Donc,
d'accord,
là,
qui sont prévus. Okay.
Et si le succès est au rendez-vous, l'aventure
donc, mais
continuera.
On pourra l'acheter que sur précommande. On peut pas.
Sur
internet
que,
ou.
Je pense que ça va.
Alors même en librairie, non?
En librairie, je ne crois pas que ça sera uniquement.
C'est vrai que 15 000, c'est pas.
Mais non, ça me paraissait pas beaucoup.
C'est pas beaucoup quand
non.
même.
Voilà. Donc c'est le fils de Jean Graton, Philippe Graton, qui depuis déjà. Un bon moment, 2016 à peu près, souhaitait fortement voir les aventures de Julie reprendre le chemin des librairies.
C'est toujours sa copine, en fait, celle qui l'a inspirée, tu sais pas?
Non, c'était pas ce fils-là.
Ah, c'est l'autre.
C'était d'accord. Pas ce fils-là. Je crois que c'était Jean-Claude, mais je ne suis pas sûre du podium. Je ne suis pas sûre. Alors, il y a des belles références pour les amateurs de BD. Philippe Pélaz est au scénario. Il a son actif des belles productions aussi. Claudio Stassi, c'est au dessin. Après, bon, je vais pas signer tout le monde parce que il y a des noms célèbres pour les gens qui adorent la BD. Donc c'est une équipe qui a soin de faire une très très belle chose. Et paraît-il que Philippe Pélaz s'est inspiré de sa fille Léna.
Tu vois, comme quoi.
Parce que ça sera une Julie qui sera déterminée, hein, ayant la liberté pour credo, comme je pense qu'on posera la question à Anne France, mais je pense que aussi c'est son
bien
credo.
Sûr, c'est leur point commun.
Voilà. Et toujours une passion, la moto, et qui elle continue quand même à évoluer dans un milieu essentiellement masculin. Alors il faut que la piste elle s'ouvre de plus en plus aux filles. Hein. Je pense que en motocross déjà, il y a des
ah ouais,
très
on
belle
a...
représentante et sur la piste aussi.
On a une
hein.
Française championne du monde.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait, ouais.
Et donc, par contre, le climat social, sera modifié. Le monde dans lequel on vit, paraît plus dangereux. Plus dangereux que dans les années 70, où il y avait, disons, d'après ce que j'ai pu lire, un air d'insouciance.
Donc, d'accord, tu nous donnes envie d'aller voir ça. Donc c'est sur le site l'imprimeur, c'est ça, ou l'éditeur Dupuis.
Et
c'est là qu'on peut faire une précommande.
Si vous voulez lire le bel article, parce qu'il y en a d'autres qui sont très très intéressants aussi dans Moto Heroes. J'ai une revue que j'aime beaucoup.
Donc c'est le dernier numéro sorti qu'on trouve en librairie de toute façon, c'est ça.
Il y a Philippe Pélaz est interviewé et c'est un bel article.
Ok, merci papa. Tu restes avec nous ? On se revoit tout à l'heure ?
Bien sûr.
A tout de suite. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Alors vous êtes toujours sur Radio Campus, Kikinko, le magazine de la moto. On est le dimanche 27 octobre et ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Là, on va parler d'une écrivaine, Elisabeth Caracciolo, qui n'est pas que écrivaine d'ailleurs et qui va nous permettre d'avoir une immersion dans le monde du Rady Raid avec son livre du sable plein les poches qu'a lu notre ami lecteur Yves. Bonjour Yves.
Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour, oui.
Alors, parle-nous de cette écrivaine...
Journaliste freelance, passionnée de sport moteur. Donc, elle a commencé à peu près en 84 en faisant du 4x4 et en faisant les sélections, aussi, en suivant les sélections pour le Camel Trophy. Bon, elle n'a jamais pu suivre ou participer au Camel Trophy parce que c'était pas autorisé pour les femmes. Quoi. Donc en étant une femme, elle ne pouvait pas faire ça.
C'était en quelle époque ça?
84, donc c'est pas si vieux que ça, hein. C'est assez récent.
Ouais, c'est dingue.
Et c'est vraiment, c'est une freelance italienne, elle est très connue en Italie, elle passe à la télé, elle a fait des tas de choses, on ne la connaissait pas en France, elle a écrit ce super bouquin. Qui retrace à peu près, je pense que depuis 91, le suivi 84-91, elle a participé à son premier Paris-Dakar. Donc de 91 jusqu'à actuellement, elle a écrit le bouquin en 2019, donc il y avait déjà 27 participations au Dakar à l'époque. Mais ça parle de tous les rallyes raids et puis aussi des courses hors piste.
Et elle parle de quoi? De son expérience?
Alors elle parle de son expérience, de tout. Alors elle nous fait entrer dans le monde du rallye raid à travers des anecdotes et des rencontres qu'elle a. Et le livre, pour avoir quelque chose, un fil rouge, il est construit sur la forme d'un dictionnaire amoureux, quoi, quelque part. Donc ça, tu suis toutes les lettres. Et donc tu as déjà, tu vas commencer par avion, bivouac, WC, entre...
C'était compliqué à trouver quelque chose avec W, peut-être, non?
Peut-être, je sais pas. Mais c'est aussi assez marrant. Et puis, il y a aussi toutes les rencontres. Alors, c'est quelqu'un de très sensible. C'est vraiment quelqu'un d'enthousiaste et généreux. Et puis, on l'entend quand on voit un petit peu sur les blogs, un petit peu quand elle parle, un petit peu. Très italienne, très, très extravertie et très généreuse. Et... avec beaucoup de compassion aussi pour les pilotes. Donc elle a participé, elle a fait en 4x4, elle a fait à peu près...
Elle
a conduit aussi. Et non seulement elle a conduit, mais en deux roues, elle a quand même fait le rallye de l'Atlas, donc sur un scooter,
ah ouais, quand même.
50 cm cubes. Donc à l'époque, c'était... elle a eu l'autorisation de le faire, mais alors du bout des lèvres. Et puis, elle a eu aussi, à cette occasion-là, une grande solidarité des autres pilotes et qui lui ont fait des ovations, par exemple, quand elle est arrivée. Parce qu'il faut imaginer, 50 cm cubes, 60 km/h de moyenne, des étapes de 300-400 km.
Dans l'Atlas.
Dans l'Atlas. Des routes, comme elle parle un petit peu de son passage sur les routes, les pistes en tons ondulés, où elle pouvait faire que du 20 km/h ou des choses comme ça. Et des pilotes qui l'attendent à la fin de l'étape pour rouler avec elle jusqu'au bivouac.
Elle a dû passer du temps quand même. Hein.
Elle a dû passer du temps et surtout toute seule. Quoi. Donc,
comment elle faisait pour l'essence, pour le ravitaillement?
Alors pour l'essence, elle avait des fois des gens, des collègues qui pouvait prendre de l'essence pour elle, mais elle a aussi eu... Il y a un passage dans le livre où elle dit elle avait son petit stock d'essence et Auriol s'arrête à côté d'elle, il était en buggy, il lui manquait de l'essence, il lui demande si elle n'a pas de l'essence. Et elle, généreuse comme elle est, lui donne de l'essence et après elle se retrouve, elle n'a plus d'essence.
Ah bah ouais.
Et un autre collègue italien qui lui repasse de l'essence à la fin, des choses comme ça. Et elle dit son petit scooter, là, il était hyper solide, notamment après l'atoll ondulé, elle faisait l'assistance avec un autre gars et lui dit écoutez, il n'y a rien, il faut juste tout resserrer et c'est bon, tu nettoies le filtre et tu repars. Quoi.
C'est quoi comme marque le scooter? Parce que c'est de la bonne cam, hein, quand même.
Ouais, c'est de la bonne cam, donc c'est le Stalker Gilera, en fin de compte.
Ah, c'est italien.
Italien, c'était subventionné par les Italiens. Et elle avait simplement un peu, il l'avait débridée pour qu'elle puisse faire du 80 après comme les nôtres, quoi. Donc elle passerait pas le contrôle technique, quoi.
Dis-moi, on le trouve où ce bouquin, alors si on est intéressé.
Alors le bouquin, on va le trouver. On le trouve pas en librairie. C'est un peu ce qui est embêtant. Moi, je l'ai commandé sur une plateforme.
On peut le dire, Amazon,
en ligne,
c'est ça
j'ai commandé chez Amazon. Il devait mettre un certain temps pour arriver, donc j'ai l'ami Alexandre Rouvroy qui m'avait parlé du bouquin, qui m'a passé son exemplaire. J'ai commencé
Tu l'as pas encore eu le tien, c'est ça
Si, c'est le mien.
D'accord.
Et j'ai eu le mien entre-temps, donc ça fait 22€.
Et on peut aussi le commander l'éditeur, non?
Chez l'éditeur aussi, directement. Donc c'est édité par l'Orto della Cultura, Casa Edition.
C'est italien, bien sûr.
Oui.
Il y a une version française, du coup.
La version française est éditée en Italie.
D'accord.
Et il coûte 22€. Donc, on a le bouquin, c'est super bien fait. Il y a énormément de photos. Photos. Alors, il faut savoir qu'elle roulait aussi avec des photographes, avec un photographe, en l'occurrence, les parcours de liaison sur Toyota, qui avait été bricolé par les copains. Mais elle a fait aussi le suivi du rallye avec une Fiat de location en Amérique du Sud. Il y a plein d'anecdotes comme ça. La Fiat de location, en fin de compte, elle était reprise par l'agence et elle était exposée à la fin parce qu'elle pensait devoir payer toutes les cautions. Et c'est formidable, on la garde. On va l'exposer comme ça.
Il y a des illustrations aussi.
Des super illustrations. Donc il y a des illustrations aussi avec des petits dessins humoristiques qui sont très bien faits. C'est très marrant.
Ouais, du coup, c'est sympa à lire.
C'est très sympa à lire. Pour participer au rallye, elle a aussi fait partie du service de restauration sur place, du rallye JDB. Et ça lui a permis aussi de connaître pas mal de personnalités. Donc, quand Johnny Hallyday, par exemple, il a participé au rallye, il essayait de se sauver parce qu'il était mis à part de tous les autres participants. Et donc, le soir, il arrivait à se sauver. Il passait par derrière la tente et il arrivait donc dans le service de restauration. C'est comme ça qu'elle a rencontré quelqu'un de très gentil. Elle a vu les gens comme Luc Alphand aussi, tous ces gens-là. Il y a des pages un petit peu très... Il y a des pages assez tristes aussi qui parlent de la mort d'un de ses amis, un pilote KTM, italien.
C'est un sport dangereux, genre.
Oui, Fabrizio Meoni en 2005. Et où elle raconte un petit peu comment les autres pilotes ressentent ça et la pudeur qu'il peut y avoir aussi, mais aussi comment ça peut les affecter. C'est très bien écrit de ce côté-là. Et on rentre vraiment dans le système. Alors il y a de l'humour, il y a des vraies histoires. Elle a aussi été dans la voiture de liaison qui était conduite par Clégré Gazzoni qui était paraplégique à l'époque. Qui conduisait encore les voitures, et elle a participé à René Medge aux reconnaissances des grands raids qu'il faisait entre Venise et Pékin, des choses comme ça, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à rouler, qui nous fait pénétrer dans le rallye de l'intérieur, quoi. Voilà.
Ok, super bouquin à lire. Donc, disponible chez Amazon. Donc, le titre, c'est... Rappelle-moi
le titre. Du sable plein les poches.
Du sable plein les poches. Très, très bon titre. Et qu'on peut également commander aux éditions L'Orto della Cultura.
C'est ça. 200 pages avec à peu près plus de 80-90 photos. Des journalistes avec qui elle était à l'époque, des photographes avec qui elle était, qui ont été recherchés dans leurs archives et qui ont envoyé tout ça. Donc il y a énormément de photos et de documents qu'on peut suivre en même temps.
Ça donne envie. Tu restes avec nous, on va aller boire un coup après dans un bar motard, d'accord?
Ouais, on va aller boire un coup puis se restaurer parce qu'on aura faim un petit peu.
Ouais, hein. Ouais. À tout de suite. From them, cars look like toys.
Ah, il y a des klaxons maintenant.
Il y a des klaxons sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto.
C'est qu'il n'y a plus de place sur le parking du 83.
Et donc là, on est parti se désaltérer et se restaurer sur la Côte d'Opale avec Jean-Pierre et Yves. Allô.
Exactement.
Allô, t'es avec nous, Jean-Pierre ?
Salut, ouais, je suis avec vous. Bonjour à tous.
Bonjour, Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, tu es motard aussi, hein ?
Oui, tout à fait.
Donc, pas eu trop d'eau ce matin ?
Non, pas de pluie du tout.
Ah bah, impeccable, alors.
Zéro.
Ici aussi. Des routes grasses, mais c'est tout.
Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, c'était l'autoroute, donc ça a été.
D'accord. Bon, bah, Jean-Pierre, je t'appelle. Là, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu par des amis du Lille Vintage Motorcycle qui donc, ont fait suivre un petit peu sur leur petit réseau une présentation de ton établissement. Tu as ouvert un nouvel établissement à Boulogne qui s'appelle le 883 et qui, pour recevoir des motards, et c'est ce que j'ai vu avec toute une... vraiment, qui présente bien la culture motarde, mais qui va présenter aussi la cuisine du monde à travers la moto, un petit peu, non ? C'est ça ?
Ouais, en fait, voilà. En fait, l'idée est venue... il y a à peu près 2 ans de ça, où il y a un nouveau pôle moto qui a été créé sur Boulogne-sur-Mer avec BMW Motorrad, avec Harley-Davidson, Daffy, Royal Enfield, QG Motor et Jump pour les vélos. Donc voilà, sur un pôle de 6000 m2. Et en fait, à l'étage, on a créé un food court, donc le 883 food court, où on a 6 espaces de restauration, un bar et un mur à bière.
6 espaces voilà. De restauration ?
Ouais.
Donc il y en a. Qu'est-ce qu'on a alors comme type alors hein ?
Alors on a Fat Bob qui est la cuisine américaine, burger, choses comme ça. Après on a Road Trip qui est la cuisine du monde, Asie, Afrique, Amérique, un peu tous les continents. On a National 7 qui, comme son nom l'indique, c'est un peu la cuisine française.
De chez nous.
Warm up, c'est tout ce qui est les finger food, les entrées à partager, les choses comme ça. Sugarland, les desserts, et puis bravo Enzo pour la cuisine italienne, les pâtes et les pizzas.
Ah, voilà. Vous avez fait une recherche là pour donner les noms à vos différents plats.
Ouais, on voulait que ce soit marqué sur l'univers du voyage, bien sûr de la moto, pas nécessairement de la moto, pas que la moto, mais en fait le plaisir d'aller se promener en moto ou en voiture et de découvrir un peu des choses.
Donc c'est déjà la moto et le voyage, quoi. Ça va très bien ensemble.
Bah, c'est pas mal, ouais.
Et ça va très bien dans le thème de l'émission.
En plus.
Aussi, exactement, oui. Donc, moi, je voulais savoir, bon, 883, tout le monde sait, enfin, j'espère du moins, 883, c'est le Sportster, c'est ça ?
Tout à fait, ouais.
Et ça correspond à l'adresse du site aussi, ou bien c'était simplement comme ça
Non, en fait, pourquoi on voulait trouver un nom. Bah parce que en fait on l'a fait en collaboration donc avec Harley Davidson, enfin c'est Monsieur Parier, le propriétaire d'Harley Davidson qui a pensé tout ce pôle. Et voilà, c'était un clin d'œil et puis aussi c'était un nom 883 qui est super facile.
Oui, ça se retient bien, oui. Oui, ça fait un peu original voilà. Aussi, oui.
Et je voulais te demander, ce nouveau pôle, c'est là où il y avait déjà la concession Harley à Saint-Léonard,
non.
C'est ça ? Non.
Ah non, alors, c'est nouveau. Elle n'est pas très loin, elle est à peu près à mi-chemin de cette petite avenue, là, elle est un peu plus en amont, 200 mètres plus près.
D'accord, donc c'est un nouveau pôle, effectivement.
Tout à fait, ouais. C'est, en fait, on a ouvert le 21 juin, nous, et toutes les concessions ont ouvert 8 jours avant.
D'accord, ah oui, donc c'est vraiment nouveau. Okay.
C'est vraiment récent. Ouais.
Et vous faites des manifestations aussi
Oui, on fait, on essaie de mettre en place pas mal de choses. Là, on va faire la manche finale du GP Moto Valence avec sur l'écran géant. On espère qu'on aura le temps avec nous. Faire une promenade, un petit déjeuner, une promenade moto, et puis après on fera le Moto GP ici. Après, on essaie de faire là, demain après-midi, on fait une vente aux enchères au profit d'Octobre Rose, en partenariat avec BM, Harley et puis Daffy, qui ont mis chacun des lots à disposition, qu'on vendra aux enchères et on mettra la totalité de la somme à la Ligue contre le cancer.
Ouais, sympa. D'accord. Sympa. Et si on veut avoir des infos sur les événements, comment on peut faire pour vous suivre ?
Alors, on est sur, bien sûr sur Facebook. 883 fautes courtes, Instagram également. On a aussi notre site internet. Voilà.
Du même nom, c'est ça?
Ouais. Tout à fait, tout du même nom, ouais.
D'accord. Donc pour nous accueillir, ça marche comment? T'as le parking en bas?
Alors on a un très grand parking de 200 places. Voitures et motos, il y a des parkings aussi spécifiques bien sûr pour les motos avec les concessions, donc c'est très facile de venir en moto et il y a 200 places de parking pour les voitures en plus.
Et pour se poser donc à l'intérieur, c'est food ou il y a un café, un lunch, quelque chose comme ça aussi pour
ouais,
se poser un peu?
Ouais, il y a le grand bar, on voit un café, on a prévu tous les box exprès pour que les motards puissent confortablement poser leurs casques et leurs affaires. Oui. Donc il y a des casiers spécifiques et après on a deux pistes de pétanque, baby foot, billard, flipper, enfin voilà, où on peut, c'est plus un espace de vie en fait, on peut venir passer un moment, jouer, s'amuser, manger, boire un café, boire un chocolat, boire une bière avec modération.
vous avez des clubs déjà qui fréquentent l'établissement?
Alors on a le chapter Harley Davidson et puis les chapters aux alentours qui viennent, Belgique notamment, on a eu un chapter allemand aussi qui vient, et un peu le club BMW aussi qui vient de temps en temps. Enfin voilà, on a des manifestations et puis des clubs qui viennent plus facilement maintenant parce que c'est que dédié aux motards, mais enfin il y a quand même beaucoup de motards qui viennent chez nous. Ouais.
Vous avez prévu une grosse manifestation en 2025 ou pas?
Alors pour l'instant, là, tout ça, comme si on est encore un peu jeune, il faut qu'on cale un peu tout ensemble. Mais oui, on a prévu faire une grande bourse où les particuliers pourront venir vendre des pièces, enfin voilà, des choses.
Une braderie, comme une braderie, quoi, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on voudrait faire aussi un peu le contre-pied, de la braderie de Lille, où on fera une autre manifestation un petit peu avant la braderie de Lille.
Ah bah écoute,
dans le même esprit, voilà.
Ah bah écoute, je te demande ça, c'est parce qu'on va bientôt attaquer le calendrier 2025 de Kikinko, ouais. Donc n'hésite pas à nous donner les infos, on les publiera avec plaisir dans le calendrier, on t'enverra tous les formulaires nécessaires si tu veux.
Oui, ça permettra.
Okay, ouais, bah super, ouais. Et puis plein d'autres manifestations. Après, on va, c'est vrai qu'on va organiser de plus en plus de choses tous ensemble pour essayer de faire vivre un peu tout ça, quoi.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas mal non plus parce que nous on va assez souvent sur la côte, tu vois, dès qu'il fait beau, et puis même hors saison, hein, parce que c'est quand même la balade. Moi je me souviens, c'était mes premières balades, c'était aller jusqu'à la mer avec ma 125. Donc de trouver un lieu où on peut se réchauffer, on peut trouver des collègues et puis même se poser, on sait jamais, il peut toujours arriver quelque chose sur la route.
Puis avec cette ambiance motard où on peut rencontrer des gens motard, facilement, quoi. Et tout,
ouais,
c'est sympa,
ouais,
c'est une
très
bonne idée.
Fait,
Donc c'était.
Vas-y. C'est vraiment l'esprit, en fait. L'esprit, c'est vraiment de venir, de s'arrêter pour un instant bref, juste pour se désaltérer, boire un café s'il fait un peu plus froid, ou alors venir passer une après-midi. On a souvent les motards, ils viennent, ils se font un petit concours de pétanque. On a une piste extérieure sur la terrasse, et une piste de pétanque à l'intérieur, et où ils viennent faire un concours de bagnie, où ils viennent vraiment s'amuser, passer un moment, regarder un MotoGP. Ben voilà, et après ils repartent. En fait, c'est vraiment un lieu de liberté. Hein. Quand on rentre ici, on fait un peu ce qu'on veut, quoi.
Et c'est ouvert quand, alors, du coup, dans la semaine?
Alors, on est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Alors, pour le moment, au début, pour un peu sécuriser le tout, on ferme le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Donc, on est ouvert de 8h pour le petit déjeuner. Alors, c'est pareil, hein, pour les gens qui viennent faire
ça, c'est super.
Révision moto, ils peuvent venir ou travailler le temps que leur moto, il y a la révision, ils peuvent venir travailler. Il y a plein de prises pour rebrancher le portable ou le téléphone. Voilà, donc on a beaucoup de gens qui viennent le matin prendre le petit déjeuner et puis, travailler, voilà, en attendant la moto. Ça à partir de 8h et tous les restaurants ouvrent à 11h30 jusqu'à 15h30 et il y a deux stands qui restent ouverts tout l'après-midi jusqu'à 18h qui sont au Sugarland, les desserts et puis tout ce qui est le finger food, warm-up qui reste ouvert tout l'après-midi. Ça c'est pour la semaine et le vendredi, samedi, dimanche on est ouvert de 8h à 1h du matin avec des concerts le samedi ou les vendredis, il y a des concerts. Voilà, on essaie de faire des manifestations le plus souvent possible.
C'est super, et puis ça peut permettre de se donner des rendez-vous, tu vois, on veut faire une balade en moto, on se donne rendez-vous à un point fixe, on peut prendre notre petit déjeuner, et puis après on se barre. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu un petit peu en voyageant un peu, c'était Deus Ex Machina En Australie, c'était comme ça. Les gars, ils arrivaient, prenaient leur breakfast et après, on voyait les groupes repartir.
Tu peux nous rappeler l'adresse, mais je n'ai pas entendu l'adresse.
Oui, on n'a pas, t'as pas donné l'adresse.
L'adresse, on est au 64 boulevard de la Liane à Saint-Léonard.
D'accord.
Bon, bah écoute, on te remercie. C'est gentil d'avoir répondu pour présenter le lieu. Et puis, bon, bah, je pense qu'on se verra.
Hein, on se dit à bientôt. Ouais, bien sûr.
On se dit à bientôt. Là.
On va venir faire un tour.
Avec grand plaisir.
Allez.
Que tous les auditeurs qui viennent se présentent bien en disant voilà, qu'ils nous ont entendus là. Et puis voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillera.
D'accord.
Super.
Merci. Sympa.
Super. Bah, je te remercie beaucoup. Allez, au revoir. Et puis, bon courage là, pour le service.
Ouais. Merci et bonne route à tous.
Salut. Vous êtes bien sur Radio Campus Kick & Cool, le magazine de la moto. Nous sommes avec Papate et nous mettons des femmes à l'honneur, des femmes iconiques, si tu me permets l'expression, Papate.
Ah ouais, tout à fait justifié en ce qui concerne Anne-France.
Anne-France, vous êtes avec nous?
Oui, iconique. Mon Dieu, il va falloir que je me tienne droite.
Bonjour Anne-France, merci de nous rejoindre. Bonjour. À l'antenne. Oui, on va parler.
Je suis ravie de vous entendre.
Ah, c'est très gentil à vous. On va parler de votre dernier livre en date, parce qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, hein, sans doute, sans aucun doute. Au titre ouais. Chaleureux, roule ma poule. Alors, que pensez-vous si je dis que j'ai vécu cette lecture comme une balade réjouissante, très intéressante, entre souvenirs, culture et réflexion, mais dans un joyeux désordre chronologique? C'était...
Je dirais que si vous passez par chez moi, je vous fais un énorme gâteau au chocolat.
Alors là, je pense que c'est tout bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, j'ai vraiment apprécié. Parce que ce petit désordre, hein, de ce cheminement entre vos souvenirs, sans respect de la chronologie, j'ai trouvé que c'était très chouette. C'était vraiment très divertissant. Et donc, j'ai appris que vous aviez arrêté vos grands voyages en moto en 1981. J'ai appris. En fait, j'ai pensé qu'effectivement, parce que je me disais pourquoi cette coupure, parce que à l'époque, donc, il y avait eu des mesures gouvernementales. Ça, sinon, vous auriez continué à faire de grands voyages.
Ah ben, j'aurais jamais arrêté. Mais quand le gouvernement Mitterrand s'est mis en place et qu'il y a eu des ministres communistes, il y a eu une panique dans le milieu des affaires et une évasion de... Enfin, ce qu'on appelle une évasion. Mais en fait, ils ont tous eu peur de se retrouver dans un régime russe et ils ont envoyé leur argent en Suisse. Donc, pour éviter ça, et au lieu de rassurer tout le monde, eh ben, le gouvernement a mis en place une mesure définitive. 5000 francs sortent de France chaque année, pas plus. Voilà. Donc, on a mis en panique et en faillite pas mal d'agences de voyage. Et puis, moi, ben, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus voyager. Je veux dire, même si je partais avec de l'argent dans ma culotte, comme la première fois, ça ne servait à rien. Si les gens rêvent, il faut se dire aussi, il faudrait que je pourrais le faire moi-même. Ça n'avait plus lieu d'être. La société n'était plus la même. Donc, à la place, ben, j'ai fait autre chose. Voilà.
D'accord. Et par la suite, vous n'avez pas eu envie de repartir à moto?
Mais je n'ai pas arrêté de faire de la moto. De toute façon, je n'avais pas le permis voiture.
Oui, tout à fait. Vous avez eu votre voyage que vous avez fait pour vos 60 printemps aussi, à l'époque, en France.
Comme je ne pouvais plus faire de grands voyages, au lieu d'écrire des livres de voyage, j'ai écrit des romans. Mmh. Et je ne suis pas taillée pour faire une carrière visible, etc. Il faut sans doute un sens de la communication que je n'ai pas et de l'organisation de sa vie. Donc j'ai fait une carrière de romancière qui ne faisait pas tâche dans un programme éditorial chez un bon éditeur, mais on savait que je ne ramènerais pas le concours, on savait que, etc. On ne peut pas avoir 3 concours par an. Donc il y a des auteurs... Seconde zone, c'est un peu vilain, mais ça veut dire ça. Ils sont en arrière-plan. Voilà. Donc j'ai fait une carrière d'arrière-plan, alors que j'ai une grande gueule. Mais surtout, j'ai aussi fait beaucoup de journalisme en tant que pigiste pour des magazines. Et là, j'ai fait beaucoup de motos, parce que je partais sur ma moto en reportage. Je disais surtout pas que j'étais journaliste, et si j'étais bien reçue, n'importe quel lecteur ou lectrice serait bien reçue.
Mais depuis 2016, vous êtes à nouveau, je dirais, sous les feux les feux de projecteur de l'actualité pour vous reconnecter au monde motard, je dirais, parce que
il y a eu cette collection de couture qui a été faite par Claire Waitkeller pour Chloé de la maison, et du coup, on a tellement parlé de mon tour du monde, partout autour de la Terre, mais jusqu'en Corée du Sud, imaginez, que je me suis dit, c'est peut-être le moment de ressortir ça, puisque tout le monde en parle, ça veut dire que c'est dans la tête des gens, ce besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, on a ressorti le tour du monde chez Payot, et puis à partir de là, ma vie est repartie, en se repliant sur elle-même d'une certaine façon, sauf que je ne suis plus du tout la même personne, parce que j'ai vécu, parce que j'ai compris beaucoup de choses, parce que j'ai eu le temps de réfléchir, et c'est passionnant ce que je vis maintenant dans ma vieillesse.
C'est une très belle formule, je dirais, concernant l'âge, parce que c'est vrai, ça fait tellement peur de te dire, ben, on ne va plus pouvoir faire des choses.
Parce que nous, on n'est plus très jeunes non plus, c'est pour ça.
Non, mais...
Ça, vous pouvez toujours vous aligner, les enfants, hein, quand vous aurez 80 ans.
C'est vrai, chapeau.
Mais en même temps, justement, c'est très, je dirais, je reprends le même terme, bon, c'est très réjouissant, parce que vous êtes toujours la même. Vous êtes dans une continuité d'être malgré tout, parce que vous êtes habité par vos... vous êtes le fruit, je dirais, voilà, de toutes vos expériences de vie, mais dans le bon sens du terme, sans fatigue apparente. Ouais.
Alors, le corps se fatigue, mais le bonheur de vivre et de continuer à comprendre, et maintenant surtout de rencontrer des gens de votre génération, par exemple, qui me... font relire les choses à travers leur regard à eux, qui s'additionnent au mien. Et ça, c'est passionnant. Mais si vous voulez, c'est ça l'avantage de vieillir, c'est qu'on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de revivre dans sa tête ce qu'on a vécu et de le relire autrement plutôt que d'y rester enfermé, et puis de se nourrir de tout ce que votre génération m'apporte. Or, quand on vieillit, il y a deux solutions. Ou on passe son temps à râler parce qu'on oppose les choses les unes contre les autres, ou alors on les additionne. Et si on les additionne, on crée chaque fois quelque chose de plus en plus vaste et de plus en plus harmonieux est un grand mot, mais c'est quelque chose comme ça.
Mais vous avez vraiment une très grande qualité, je dirais, à mes yeux, c'est que vous arrivez à positiver à partir d'expériences malheureuses. Je lisais les phrases que vous avez écrites, hein, concernant votre spécialisation après votre accident de voiture. J'étais impressionnée d'en faire quelque chose, je dirais, de positif, en disant, bah, oui, c'est j'ai revécu la magie des voyages.
C'est vrai que quand je me suis retrouvée à l'hôpital à Vicennes, j'ai revécu tous mes voyages parce que c'était des gens, le personnel vient d'Afrique, du Maghreb, de partout. Et j'ai retrouvé le même émerveillement de pouvoir communiquer avec sincérité parce qu'on communique par les racines, on ne peut pas forcément communiquer par la culture, même si ce sont des Français, mais on n'a pas le même passé familial derrière nous. Et c'est passionnant. Mais vous savez, c'est ça l'avantage aussi d'avoir voyagé. C'est d'avoir vu des pays où règne sans doute encore une grande violence, où l'individu n'est pas défendu, où l'individu ne peut pas... il faut appartenir à un groupe. Des pays où j'ai vu la torture en Amérique du Sud, j'ai vu pas mal de choses. Je rentre en France et je me dis, mais... Ok, tout n'est pas génial, mais qu'est-ce que j'ai de la chance? Qu'est-ce que j'ai de la chance? Et je me régale de ma vie.
Je voudrais revenir sur un truc beaucoup plus terre-à-terre, sur le dernier bouquin, là, Roule ma poule, sur la couverture. Donc vous êtes à moto et il y a trois poules, deux blanches et une noire. C'est fait exprès, il y a un message?
Écoutez,
j'y ai pas pensé.
Non, moi non plus, mais c'est génial. Mais dans ces cas-là, je les écrase pas. Non, j'étais à l'hôpital, je me suis cassé la gueule sur un trottoir. Ça, c'est l'histoire la plus folle de ma vie. J'ai pris des gamelles de toutes les façons avec ma moto. Vraiment. J'ai même, un jour, en faisant du trial, fait un saut périlleux arrière sur une moto. Mais comme j'ai fait du judo, j'ai appris à tomber et je n'avais que des bleus. Le 18 décembre, je prends mon caddie pour aller chercher la litière des chats. Je marche le long d'un trottoir, je trébuche, je m'explose. Et j'ai passé 4 mois à l'hôpital avec une fracture du fémur tout le long de la prothèse de hanche. Voilà, c'est ça l'histoire d'une vie, vous voyez.
En tous les cas, c'est un beau parcours à vous lire. Et ce que je vous propose, Anne-France, c'est de terminer avec le chat, parce que effectivement, il vous inspire des réflexions, je dirais, philosophiques qu'on devrait tous conserver en mémoire. Et vous dites, il ronronne pour me faire plaisir. Et ici et maintenant, c'est toujours. C'est très, très beau.
Ben ça, c'est ici et maintenant, je crois que c'est une des phrases les plus importantes de la pensée extrême orientale. Mais vous savez, toutes les pensées se mélangent aussi. Si on essaye de voir par où elle résonne. Bon, ça, tout ça, c'est peut-être une autre conversation un jour. On fera de la philo avec un gâteau.
Écoutez, en tous les cas...
Je retiens le gâteau au chocolat. Oui. Hein.
Et moi, j'attends le prochain livre.
Eh bien, écoutez, je l'ai soumis à Payot. J'espère qu'il plaira.
Super.
Voilà, on va voir. On va voir. Eh ben, tout est suspendu, ma chère.
Ah ouais, super, super. Une très, très bonne nouvelle, Anne-France. Merci pour ces minutes que vous nous avez accordées. C'était un vrai bonheur.
Oh ben non, quel bonheur de vous entendre. Surtout, et puis j'en peux plus avec la fierté d'avoir eu autant de compliments. J'ai pas l'habitude.
N'oubliez pas, vous êtes iconique.
Ah mon Dieu. Bon, on fera le jeu de mots après parce qu'il n'est pas comptable.
Oui. J'y ai pensé aussi, mais je me suis dit peut-être que personne ne va le faire.
On ne dira pas iconique comme la lune.
À très bientôt, Anne-France.
Merci. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto. Nous arriverons bientôt à la fin de cette émission. Un papa, c'était sympa quand même, non ?
Ah, très très sympa.
On a encore des sujets à aborder peut-être.
Bah, oui, parce qu'on ne peut pas finir l'émission sans parler de la préparation du calendrier Kikinkou Tetou Pal, édition 2025. C'est le plein moment. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Luc ?
Alors, en 2025... C'est les 25 ans du calendrier, ça sera le 25e exemplaire, mais et aussi et surtout, ce seront les 40 ans de Kikinkou en 2025.
Voilà.
Et donc, on a prévu de mettre le paquet, ça. Donc, par rapport à l'année dernière, qui faisait 60 pages, cette année, on monte à 68 pages pour pouvoir notamment mettre un encart de 4 pages qui reviendra sur les 40 ans de Kikinkou. En fait, on va présenter par décennie l'évolution de l'association, de la radio, mais pas seulement, et de tout ce qui a été fait autour de Kikinkou.
Alors, ça va être vraiment un calendrier collector ?
Collector avec notamment des illustrations aussi, comme d'habitude. Cette année, c'est Michel Dezotte, un aquarelliste, qui nous a proposé d'illustrer le calendrier. Bien sûr, il y a Fred qui sera présent quand même avec la Mère Noël, mais aussi parce qu'il va illustrer le 4 pages qui est à l'intérieur. Il nous a fait un logo exprès spécial 40 ans que vous retrouverez dans le calendrier, parce qu'on a prévu de faire, on a dit 40 ans, 40 événements. Donc on a prévu de faire 40 événements, alors on ne les fait pas tout seul, hein, vous inquiétez pas. Et donc à chaque fois où il y a un événement où on sera associé, on y mettra ce logo 40 ans. Vous verrez, ça sera sympa.
Trop bien, oui. Et alors pour les annonces, comment ça marche ?
Alors pour les annonces, ça marche parce que ce qui fait la richesse du calendrier, bien sûr, c'est l'info qu'il y a dedans. Donc c'est l'info que nous donnent les motoclubs. Donc nous avons sur Facebook, tu as d'ailleurs diffusé une affiche, mais aussi un formulaire. Donc il suffit d'aller sur notre site internet, k1c.free.fr, ou sinon vous tapez Kikinkou sur un moteur de recherche, ça marche aussi. Et là, vous aurez sur la page d'accueil, il suffit de cliquer sur le bouton et vous avez le formulaire au format Word qui peut être traduit en ODT, c'est le Word gratuit, et vous pouvez l'utiliser, il suffit de le remplir, vous le saisissez, vous nous le renvoyez à l'adresse indiquée et nous prenons les infos. N'hésitez pas aussi à mettre dans le mail un logo, voire une photo. En fonction de la place, on publiera, on a 8 pages de plus. Bon, ça devrait aller, quoi. On devrait pouvoir faire plaisir à tout le monde.
Voilà, faire plaisir, parce qu'il faut rappeler, c'est gratuit. Il n'y a aucune contrainte.
La publication des informations est gratuite, effectivement. Le calendrier est diffusé gratuitement par nos soins dans tous les lieux fréquentés par la motard. En Haute-France, dans la frontière, à la frontière belge, mais aussi dans les grandes manifestations, en fait, où on va, on le retrouve sur, à Manicourt ou ce genre de truc, quoi, si tu veux. Si on peut le donner gratuitement en 25 000 exemplaires, c'est parce qu'il y a des annonceurs qui nous font confiance depuis le début. Je pense à tous les professionnels de la moto, entre autres, mais aussi à certains motoclubs aussi, qui nous mettent une petite pub pour pouvoir payer l'imprimeur et les frais de distribution du calendrier. Et on les remercie vivement encore cette année, quoi.
Oui, et puis ça arrive que des motards qui sont loin de la région nous écrivent pour nous demander si on peut en envoyer, mais c'est possible, mais en contre-remboursement des frais d'envoi.
Ça a un coût important, parce qu'en plus, t'imagines, là, 68 pages, donc ça va être assez épais. En plus, il y a une couve en 120 grammes, donc c'est pour que ça soit un bel objet qui se tient bien. Donc forcément, par la poste, ça coûte, ça coûte 5 euros pour un exemplaire.
Mais il y a réellement des amateurs qui ne veulent pas rater le...
Non, mais c'est vrai, chaque année, il y a des gens qui... Ouais, parce que on leur répond des fois, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans notre belle région, que le calendrier est aussi au format numérique, téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Mais effectivement, ça ne remplace pas le papier, quoi, parce qu'on a tous un certain âge et on aime bien. Vous deux là, qui êtes des lecteurs assidus, vous aimez bien le papier aussi. Je ne vous vois pas lire un livre au format numérique. T'as l'odeur du papier, t'as le fait de pouvoir le toucher, de tourner les pages, de revenir à la page d'avant.
Ou je perds l'odorat, ou je pense que ça a dû évoluer. Et les pauvres, c'était d'impression, parce que j'ai plus cette odeur là.
À mon avis, t'as perdu l'odorat. Non, parce c'est que ça, tu sens l'encre, tu sens le papier. En plus, là, sur un coucher brillant comme ça, je trouve que ça a plein d'odeur. Enfin, voilà, c'est un bel objet.
C'est pratique.
C'est pratique.
Il y a le calendrier avec.
Et donc voilà, donc il est en cours de réalisation. N'hésitez pas à nous donner vos infos. Avant le 15 décembre, ça serait bien quand même, parce qu'il faut qu'on fasse la PAO.
C'est quand même la date limite.
Ça demande un gros, gros boulot de PAO quand même.
Une question pour les annonceurs professionnels, ils passent par le même formulaire aussi pour leur annonce, ou bien il faut qu'ils te contactent directement?
Alors, tu as mes coordonnées, effectivement, sur les documents qui sont à disposition. Donc, il suffit qu'ils précisent qu'ils sont intéressés par mettre une pub, et puis on les contactera avec les formulaires qui vont bien, il n'y a pas de souci. Même s'ils sont pas loin, on ira les voir directement, comme ça c'est encore plus simple.
Ouais, préciser, non. Parce que l'année dernière, on avait des gens qui disaient oui, tiens, si j'avais su, et donc.
Qui nous contactent, on ira les voir. C'est mieux d'être en face à face. Nous, on aime bien, on en fait un peu à l'ancienne encore.
Ouais,
on va voir.
C'est pas mal.
On va voir les annonceurs, on discute, on leur montre le calendrier. Et à chaque fois, on essaie de répondre à la demande et à la besoin de l'annonceur. Quoi. Donc on peut lui créer la publicité, on peut même, et parfois éventuellement, imaginer un rédactionnel qui accompagne également, de façon à ce que le message qu'il veut faire passer passe bien, quoi, tout simplement, et tout en étant un bel objet, un truc sympa à lire, et que ce ne soit pas non plus un catalogue de pub, bien entendu. Quoi.
Super.
Merci.
Donc voilà, je disais ça. Et donc, pour finir, la sortie du calendrier se fera le samedi 11 janvier au Trianon, la salle de spectacle au village moto de Seclin. L'entrée, bien entendu, est gratuite et il y aura la présence de motoclubs qui ont publié leurs infos, qui seront également là pour enseigner le public. Voilà.
Avec un concert.
J'entends, avec un concert, bien entendu. J'entends le générique, c'est la fin de l'émission. Papate, merci pour cette émission super sympa.
Merci
où on a pu mettre en valeur des femmes iconiques. Et puis cette interview de Anne.
Ouais, un beau cadeau que Anne France nous a fait.
Formidable, formidable. Ouais. Merci aussi Yves pour ces à la fois
ce
cette
voyage,
lecture,
hein.
Cette ouais. Lecture, hein, c'est assez sympa, enfin cette proposition de lecture. Et puis pour nous avoir fait découvrir le 8/83,
hein,
à Boulogne-sur-Mer. Oui. Ça donne envie d'y aller, hein. Ça a l'air sympa.
Je crois qu'il y en a deux motos qui nous attendent là devant.
On va pouvoir monter dessus. Merci Laurent pour cette technique particulièrement au poil cette année, ce dimanche. Hein ? Bravo, merci. À dimanche prochain. Salut.
Salut.
Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Aux yeux de Marie-Lou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à Foncal à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Du jour où je me suis mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job à la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec et maths. aux yeux de Marie-Lou, qui me traînait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Ah non, tu peux pas savoir, mec. Il lui fallait des discothèques et bouffer au Kangourou Club. Alors je signais des chèques, sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou, comme un melon, une pastèque. Mais, maman, je ne veux pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, l'aimer encore? Des clous. Qui et où suis-je? Joue ici ou dans la blanche écume d'Arec? Sur la plage de Malibu.